RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Michel, bonjour Yann. Nous nous retrouvons avec Jean de Pontcharrat, dont je rappelle pour nos auditeurs qu'il est physicien de formation. Vous avez passé 40 ans au commissariat à l'énergie atomique et vous nous parlez, et je pense que nous en avons grand besoin aujourd'hui, de ces questions délicates de la science et de ses relations avec la foi, avec la recherche de la vérité, avec toutes ces problématiques qui nous agitent.
Alors, Jean, nous sommes contents de vous accueillir à nouveau. De nombreux papes de l'ère moderne, ancienne, enseignent que la science et la foi, loin d'être antagonistes, sont au contraire étroitement liés. Bien évidemment, cela va souvent à l'encontre d'une croyance moderne qui les oppose. Alors, je reviens sur cette question que nous avons eue lors d'une de nos émissions précédentes. Est-il possible d'être croyant et scientifique ?
La réponse pour moi est évidente, c'est oui. Ceux qui disent le contraire ne sont pas croyants. Ils sont peut-être scientifiques, mais ils ne sont pas croyants.
Alors, sans reprendre toute la démonstration de l'émission précédente, en quoi la foi peut participer au développement de la science ?
La foi admet qu'il y a une vérité transcendante qui dépasse l'intelligence humaine. À ce moment-là, la recherche de cette vérité, sans dire qu'on se l'approprie ou que c'est nous-mêmes qui la fabriquons, en se soumettant à cette vérité, on ne peut faire qu'avancer le progrès de la connaissance de l'homme sur lui-même ou de l'homme sur son environnement, sur le cosmos, sur son destin, sur toute la raison d'être de son passage sur Terre.
En quoi le fait d'être croyant pour vous, de croire en Dieu, cela a-t-il un impact sur les recherches que vous avez faites, puisque physicien
C'est relativement vrai pour tout ce qui est la science fondamentale qui ne peut pas se baser sur une méthode expérimentale. La méthode expérimentale permet de faire avancer les connaissances techniques, donc le progrès technique, mais tout ce qui est connaissance du cosmos et connaissance du passé de l'homme ne peut pas bénéficier de cette recherche expérimentale. Et certains scientifiques non-croyants mélangent ces notions et font croire que la science expérimentale pourrait expliquer la naissance de l'univers ou l'apparition de l'homme sur la Terre. C'est évidemment inexact. On peut, avec les résultats de tout ce qui s'est passé dans les temps antiques, faire des déductions pour imaginer comment ça a pu se passer, quel phénomène a pu provoquer tel relief.
Sont des hypothèses.
Voilà, et ces hypothèses-là ne sont pas démontrables par la science. Elles peuvent être imposées parce qu'il y a un consensus de scientifiques, mais elles doivent laisser la place à des hypothèses concurrentes qui ont aussi droit de citer au même titre que l'hypothèse officielle. Et dans le discours des médias scientifiques, on entend systématiquement que l'hypothèse officielle a été démontrée et que c'est devenu un fait.
Il n'y a pas de débat.
En fait, les scientifiques savent très bien que c'est toujours une hypothèse.
Vous êtes en train là, d'aborder un sujet délicat, c'est l'hypothèse de l'évolution.
Par exemple, c'est un exemple très important de voir comment des partisans de l'évolution font la même faute que Galilée, c'est de prétendre que l'hypothèse qu'ils défendent est déjà démontrée, ou qu'ils l'ont démontrée, ou que d'autres l'ont démontrée.
Mmh.
Mais sans apporter vraiment la preuve. C'est des suppositions, c'est comme une enquête judiciaire, on cherche les indices, on accumule les indices, on peut tomber juste et on peut tomber à côté. Les erreurs judiciaires, ça existe aussi avec des indices très convaincants.
Donc la foi au service de la science et non pas opposable. Et justement, on évoquait de nombreux papes qui ont écrit là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples et des références?
Pie XII dans Humani Generis avait dit qu'il y avait danger de prendre des hypothèses non démontrées comme étant la réalité et appelait à un vaste débat sur la question de l'origine animale du corps de l'homme, par exemple, puisque c'était en plein débat sur l'évolution. Mais c'est la position scientifique la plus normale. C'est une hypothèse, avant d'être admise, doit être démontrée. Il ne suffit pas qu'il y ait 99,99% des scientifiques qui soient d'accord avec une hypothèse pour qu'elle devienne une vérité. Et c'est une notion que l'homme moderne a beaucoup de mal à admettre.
Vous voulez dire que 0,01% d'opposants à une hypothèse peuvent avoir raison et dire il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans.
Les scientifiques ont l'habitude de dire un seul fait contraire à une hypothèse démolit l'hypothèse. C'est pas si simple que ça. Parce que le fait doit aussi être démontré, mais ça n'empêche pas qu'une minorité absolue puisse avoir raison contre la majorité. Et toute l'histoire des sciences l'a montré.
Il n'y a pas que dans les sciences.
Même dans la musique, je crois qu'il y a pas mal d'hypothèses. Nous allons faire une petite pause et revenir sur ce grave sujet.
Dans la musique est une science.
Nous nous retrouvons après cette petite respiration et j'aimerais pour nos auditeurs que peut-être nous amenions quelques éléments qui en fait portent ces grands débats, quelques noms, quelques points de repère peut-être dans le temps et plus personnalisés.
Alors Jean, avant de rentrer un petit peu dans cette liste de grands scientifiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité, j'aimerais qu'on revienne quand même quelques instants très rapidement sur cette histoire de la science, qui est quelque chose que nous connaissons puisque c'est ce qui est derrière nous, qui est en fait simplement la remise en cause des hypothèses qui avaient été retenues à une époque.
C'est exact. L'histoire des sciences, c'est une remise en cause permanente d'hypothèses d'une époque. Et on n'échappe pas à la règle au jour d'aujourd'hui. On peut très bien voir une hypothèse qui paraissait très bien construite et très cohérente s'écrouler sous une découverte inespérée ou non attendue.
D'où l'intérêt du débat.
Voilà, l'intérêt du débat qui est fondamental en histoire des sciences.
Ok. Alors, est-ce qu'on peut revenir, comme on l'annonçait justement, sur le nom de grands scientifiques qui avaient ou qui n'avaient pas la foi ou qui ont découvert la foi à l'occasion de leurs recherches?
Nous avons le médecin Alexis Carrel, qui était très rationaliste et refusait le surnaturel, qui s'est rendu à l'évidence après des miracles à Lourdes de cette existence d'une vérité qu'il n'imaginait pas être réelle.
Qui s'imposait à lui.
Et qui s'imposait à lui.
Alexis Carrel, c'est l'auteur de L'homme s'est inconnu, c'est ça?
Voilà.
D'accord.
Voilà.
D'autres noms de scientifiques qui ont été habités par la foi et dont la foi a servi de support à leurs travaux?
Au Moyen-Âge, c'est évident que la foi a servi de support à tous les scientifiques. On peut citer Pascal, Kepler, Tycho Brahe, qui est l'astronome danois qui a fait des observations d'une grande importance et d'une grande précision qui a permis à Kepler de déduire ses lois astronomiques. Mais c'est Tycho Brahe qui était à l'origine de toutes les observations, et Tycho Brahe était géocentriste. Donc on n'en parle plus, à l'heure actuelle, on ne parle plus de cet astronome qui était à l'origine de la découverte de la trajectoire ellipsoïdale des planètes.
Et quand vous dites géocentriste, c'est cette position qui consiste à dire que la Terre est le centre de l'univers, c'est ça?
Exact, et que c'est le Soleil et les planètes tournant autour du Soleil qui tournent autour de la Terre.
Alors je pense que le sujet est trop important pour qu'on l'aborde dans une simple question-réponse. On y reviendra très longuement.
Je continue la liste. On a plus proche de nous Volta, Ampère, Cauchy, Gauss, Edison, Marconi, Millikan, Eddington, Planck, Schrödinger, donc des physiciens de haut niveau.
Je ne connais pas tous les noms. Il y en a certains qui me parlent parce que leur découverte porte leur nom. Mais effectivement, donc, on peut constater que beaucoup de scientifiques étaient des personnes qui étaient croyantes et c'est leur foi qui a conduit leur recherche.
Elle disait que leur recherche était soutenue par la croyance en un Dieu créateur et créateur des lois physiques et des lois scientifiques.
Vous parlez de soutien. C'est fort. La science, était, la recherche était soutenue par la foi.
Exactement. C'est vrai pour Pascal, Ampère, Cauchy. Les anglo-saxons, il n'y a aucun problème. Pour eux, ils sont beaucoup plus, moins coincés que les Français ou les Européens pour exprimer leur foi dans des milieux scientifiques.
Aujourd'hui encore.
Peut-être moins vrai pour les catholiques. Mais...
Alors, pourquoi la foi semble s'opposer tant à la science ?
Elle ne semble pas
s'opposer. Parce qu'on parle d'obscurantisme.
Oui, c'est une façon d'essayer de prendre la place de l'Église dans l'influence de la connaissance humaine. C'est évident.
C'est le refus d'une vérité révélée.
Exactement. Si on a une notion, une vision du monde qui ne colle pas du tout avec la vision de foi, on ne peut pas accepter que cette vision de foi dirige la science.
Donc c'est le péché originel ?
Oh, bien sûr, le péché originel. D'ailleurs, notre époque est celle qui a mis le plus en doute l'historicité du péché originel. Et nous verrons qu'en science, c'est flagrant.
Le refus de servir. Non serviam.
Exactement.
Péché d'orgueil. Péché d'orgueil. Oui.
Très bien. Mais écoutez, merci Jean pour ces différents éclairages. On a bien compris que lorsqu'on parle d'un débat scientifique, il faut justement qu'il y ait débat. Et le débat sur des hypothèses, ces hypothèses ne pouvant être présentées comme des certitudes, comme trop souvent le fait aujourd'hui.